Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle apérophonie. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble sur le 90.8 FM. Ce soir, au menu de cette apérophonie, Enjeux communs, une association iséroise qui propose des ateliers collaboratifs et pédagogiques dans le but de sensibiliser aux enjeux écologiques. Du Voironnais à la Brièvre, du Trièvre au Vercors en passant par le Grésivaudan et le Nord-Isère, Enjeux communs organise le festival sensibilisaire du 11 au 19 novembre partout sur le territoire isérois. Nous avons le plaisir d'accueillir pour nous en parler Magali, bénévole à Enjeux communs. Bonjour Magali.
Bonjour.
Bonjour. Alors avant de commencer, nous allons écouter les cactus de Mathilde.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les cactus, une chronique bimensuelle qui parle d'actualité de façon décalée. Vous le savez, Halloween arrive à grands pas, mais on dirait qu'il est en avance. Hein. Pas besoin de se mater un film d'horreur, il suffit de regarder les actualités. Non mais c'est vrai quoi, 28 à 29, sérieusement les gars? Ah oui, je parle de l'élimination de la France à la Coupe du Monde de rugby bien sûr, qui a perdu de 1 point face à l'Afrique du Sud. Et ça me fait d'ailleurs vachement penser à la demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud qui triomphe encore une fois d'un point. Bon, je ne suis pas complotiste, mais admettez tout de même que la coïncidence est étonnante, puisque ces deux matchs ont été arbitrés par la même personne, Ben O'Keefe. Bon, on espère simplement que la finale Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande sera arbitrée par un autre, juste dans un souci d'équité entre arbitres bien évidemment, et pour un peu plus de suspense. Restons d'ailleurs dans le champ du sport si vous le voulez bien. Mardi 17 octobre, la marque de sport parisienne Distance a autorisé le vol de ses produits pendant une journée, à condition de courir plus vite que le vigile de sécurité. Bon, petit bémol, hein, l'agent de sécurité en question était le sprinter français Meba Mikael. Bon, vous l'aurez compris, à l'issue de la journée, c'est seulement deux personnes qui ont réussi à s'enfuir. Les autres devaient certainement être enrhumées. D'ailleurs, si vous êtes enrhumées, attention, bon, je vais devenir votre maman le temps d'un instant, mais mettez bien une petite laine quand vous sortez et surtout, n'utilisez pas les comprimés anti-rhume tels que Humex ou Dolirhume. En effet, l'Agence nationale de sécurité du médicament a appelé lundi 23 octobre à ne pas utiliser les comprimés anti-rhume susceptibles de provoquer, je cite, « de rares effets indésirables ». Ce que j'aime bien avec ces termes de « rares effets indésirables », c'est qu'ils désignent avec souplesse et une certaine forme de légèreté des hauts risques de crise cardiaque et d'AVC. Ah là là, le choix des mots. Bon, ils ont certainement dû construire leurs phrases sur Wikipédia, vous me direz. D'ailleurs, Wikipédia, c'est LA nouvelle trouvaille d'Elon Musk, mon petit chouchou. En vrai, on le sait, Elon Musk, c'est d'abord des combats philanthropes, sensés et réfléchis. Alors, n'hésitez pas à renverser la phrase, ça fait plus sens. Et comme on le dit souvent, il faut choisir ses combats. Mais qu'est-ce que ces choix, mon petit Elon? En effet, il a aujourd'hui attaqué Wikipédia et propose 1 milliard de dollars pour que le site change de nom, passant de Wikipédia à Dickipédia. Bon, je vais pas l'expliquer, hein, les anglophones l'ont et c'est déjà trop. Mais alors pourquoi? Eh bien, entre autres parce que l'encyclopédie a une bonne image puisqu'elle lutte contre la désinformation. Et c'est vrai qu'avec X, anciennement Twitter, visé par l'Union européenne mercredi 11 octobre pour diffusion de fausses informations, bah, ça collait pas trop pour lui, quoi. D'ailleurs, autre information incongrue, mercredi 18 octobre, pour la journée mondiale de la ménopause, sur CNews, ouais, ça donne le ton, hein, 6 hommes et aucune femme présente sur le plateau ont pris la parole sur le sujet. Alors, je tiens à envoyer toute ma compassion à ces hommes pour deux raisons. Déjà, je n'étais absolument pas au courant que les hommes avaient la ménopause, my bad. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça doit être difficile pour eux? Non mais quand même, quand on y pense... De supporter ces folles furieuses ménopausées qui un coup ont chaud, un coup ont froid. Oh, c'est bon Monique quoi, enfin, c'est le réchauffement climatique. D'ailleurs, par rapport à l'environnement, si le gouvernement n'a pas compris les enjeux écologiques qui gravitent autour du projet d'autoroute A69, puisqu'il a relancé les travaux ce lundi, bon, vous inquiétez pas, les zadistes sont là, hein. Il essaye tout de même de se rattraper. Effectivement, le gouvernement va lancer un nouveau jeu à gratter appelé Mission Nature, et vu le nom, on se croirait dans Moundir et les Aventuriens. Mais en fait, il s'agit d'un jeu à gratter qui reversera une partie des bénéfices à des projets en lien avec la protection de la nature. Pour terminer avec un peu plus de couleur dans ce monde capitaliste, j'aimerais vous montrer qu'il existe des situations que le système n'avait même pas prévues en son sein. C'est le mouvement Tax the Rich qui est revendiqué par de plus en plus de millionnaires au Canada, aux États-Unis, en Europe, bon, on s'en fait en France évidemment, et tous revendiquent la même chose. Je cite « Je suis riche, taxez-moi, je veux payer autant d'impôts que les autres pour éviter que la société implose. » Bon, on pourrait peut-être appeler Elon Musk hein, pour qu'il puisse justement passer ses 1 milliard de dollars dans autre chose qu'une guerre contre Wikipédia et que pourquoi pas, il intègre le mouvement. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ma chronique et on se retrouve dans 2 semaines, même jour, même heure.
Merci beaucoup Mathilde. Alors pour commencer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association, ses activités et comment vous y participez ?
Alors oui, alors l'association Enjeux communs, c'est une association qui existe depuis 2 ans, donc qui est toute nouvelle. Qui est partie de l'idée de faciliter en fait aux citoyens leur sensibilisation s'ils veulent participer à des ateliers qui sont participatifs, ludiques et qui sont pour faits pour comprendre un peu plus les problématiques. Donc la plus connue des ateliers, c'est la fresque du climat. Voilà, sauf que la fresque du climat n'est plus la seule, ça a été la première, mais après il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi, la fresque du numérique, la fresque de l'eau, la fresque de la biodiversité, etc. Et du coup c'est beaucoup d'informations sur internet, si on veut un peu tout centraliser, c'est pas mal. Donc du coup là c'est le but de l'association Enjeux communs, donc ça se fait via un site internet. Qu'on fait nous-mêmes en fait les bénévoles les membres de l'association et on tient à jour donc le but c'est de tenir à jour un agenda avec tous les ateliers qui sont proposés dans tout l'Isère.
Et est-ce que l'association répond à un constat au niveau du besoin qu'ont les citoyens, les citoyennes d'être informés? Est-ce que cet engagement en faveur de l'écologie, ça répond à quelque chose que vous avez pu voir au cours de peut-être votre vie militante, cette envie de s'engager dans cet assaut-là ?
Alors, c'est un avis personnel, hein, mais qui est partagé hein, par tous les gens qui s'engagent un peu comme moi aussi, c'est que là, ce qui est important, c'est que vu l'urgence. Ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens pour que les gens comprennent déjà pourquoi agir, parce que sinon on n'agit pas, s'il n'y a pas de sens. Voilà. Donc tous ces ateliers, c'est fait pour sensibiliser les gens et pour qu'ils comprennent. Et oui, je pense qu'il y a... Les gens sont intéressés parce qu'on le voit, hein, la participation des gens aux ateliers de plus en plus, il y en a de plus en plus quoi, et en plus bon bah voilà, la plupart du temps c'est des ateliers qui sont gratuits, par exemple lors de notre événement sensibilisaire. Après quand ce sont des ateliers qui sont faits en entreprise, là par contre c'est payant.
En règle générale, quel genre de public vous accueillez?
Alors, quel genre de public? Je dirais un peu de tout public. Autant qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes et il y a des plus anciens. Après, il faut voir qu'il y a certains ateliers comme la fresque du climat ou d'autres qui ont des versions juniors. Et du coup, là, c'est pour sensibiliser les plus jeunes. Parce que sinon, les ateliers, en général, durent 3 heures. Et 3 heures, c'est assez long. Quand même. Donc pour des enfants, c'est trop long en fait. Donc il y a des formats juniors qui existent et qui sont facilités dans les collèges, essentiellement dans les bibliothèques. Moi, je suis déjà intervenue dans les bibliothèques aussi.
Et les gens viennent de leur propre chef. Comment faites-vous pour essayer de toucher les publics qui seraient le moins sensibilisés et le moins touché ou intéressé par le sujet?
C'est vrai que c'est une de nos problématiques parce que enfin, là, je vais parler plus au niveau de la fresque du climat, parce que moi, je suis animatrice, donc je suis plus au courant. Mais on a déjà sensibilisé beaucoup de gens, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est de sensibiliser des gens, effectivement, qui ne sont pas... qui ne viendraient pas d'eux-mêmes, en fait. Donc, pour ça, par exemple, moi, je connais un animateur qui est très à fond et qui va se poster devant un magasin bio, voilà, et puis qui va essayer d'accoster un peu les gens. Et par exemple, pour la fresque du climat, on a une version fresque quiz. Peut-être qu'il y en a déjà qu'on croisait cette fresque, qui est en fait une fresque hyper rapide avec juste quelques cartes. Parce que normalement, c'est un jeu de cartes, en fait, avec 42 cartes. Donc là, c'est juste une dizaine de cartes. Donc c'est un peu pour donner envie aux gens, leur montrer que c'est ludique et qu'on peut apprendre des choses. Et donc, voilà, donc on essaye d'atteindre des personnes qui ne s'arrêteraient pas forcément. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est une problématique qu'on essaye de...
Et donc, comment ils sont pensés... Comment ils sont construits les ateliers et tous ces moyens ludiques de sensibiliser ?
Alors, c'est une bonne question. La plupart sont un peu tous articulés quand même de la même façon. Après, je pourrais revenir plus dans le détail. Mais la plupart, c'est sur des formats de 3 heures, avec 3 temps forts. Un premier temps, la partie jeu, entre guillemets, avec des cartes. Donc les participants sont, c'est vraiment eux qui jouent quoi. La personne qui anime l'atelier, elle se doit d'être pas forcément donner son avis et tout, mais par contre voilà. Donc c'est le but, c'est que les gens, souvent dans la plupart des ateliers construisent une fresque ou un cheminement avec les cartes pour comprendre les choses, que ce soit la fresque du climat ou que ce soit la fresque de l'eau ou d'autres. Donc ça, c'est un premier temps qui dure un peu plus d'une heure. Après, on a un deuxième temps qui va plus être sur qu'est-ce que ça nous fait, quoi. Parce que la fresque du climat et d'autres, c'est vrai que à la fin, des fois, c'est un peu remuant quand on n'est pas complètement au courant aussi des choses. Donc là, il y a un temps qui est vraiment adapté pour que les gens puissent discuter, se libérer. Donc, par exemple, la fresque du climat, on va s'amuser à faire des dessins sur la fresque, mettre un titre, des choses comme ça pour libérer un peu les émotions. Et le troisième temps, c'est un peu un débriefing, on va dire, pour discuter des actions possibles, pour se mettre en mouvement, en fait. On dit souvent, il y a trois temps, tête, cœur et puis corps après. Donc la tête pour le jeu, après le cœur pour les émotions et puis le corps pour les jambes pour aller, on y va.
Pour l'action,
voilà, c'est ça.
Et comment cette volonté de participative, de collaborative, vous arrivez à l'adapter aux différents publics? Je pense notamment aux enfants, vous avez commencé un peu à expliquer des quiz par exemple. Ces formats de 3 heures, ils ne sont peut-être pas forcément adaptés. Concrètement, comment vous pensez les ateliers, notamment pour les enfants?
En fait, par exemple, la fresque du climat, ça va être la même chose. Il va y avoir 3 temps. Pareil, sauf que les temps vont être plus courts. Il y a moins de cartes et il y a moins de cartes techniques. La fresque du climat, il y a quelques cartes qui sont un petit peu techniques, qui demandent un peu d'explication et un peu de connaissance quand même qu'un enfant de 10 ans n'a pas, ou de 11 jusqu'à 14 ans n'ont pas. Donc ça reste, le message est le même, mais adapté vraiment aux plus jeunes.
Et souvent, les publics qui sortent de vos fresques, de vos ateliers, ils arrivent à appliquer ce qu'ils ont compris et agir?
Alors, c'est vrai que nous, ce qui est un petit peu frustrant pour un animateur, c'est que après, on n'a pas forcément trop de nouvelles. Où est-ce que les gens sont? Comment ils ont? Voilà. Après, nous, on reste toujours vigilants pendant l'atelier. Comment ça se passe? Parce qu'il y en a qui, des fois, qui sont un peu... qui ne le prennent pas très bien, quoi, et qui ça se passe... Et de toute façon, on refait toujours un mail après l'atelier pour aller un petit peu plus loin, pour donner des pistes, pour donner des liens, des bouquins à lire et tout. Et on reste aussi disponible pour s'il y a des gens qui sont en difficulté par rapport à la suite de l'atelier, quoi.
Et est-ce que ce sont les bénévoles qui réfléchissent aux ateliers ou est-ce que c'est des initiatives qui sont à l'œuvre sur l'ensemble du territoire que vous venez piocher? C'est des intervenants extérieurs qui viennent animer les ateliers? Comment ça s'organise concrètement?
Alors concrètement, ça marche en petite communauté, on va dire. Donc il y a la communauté de la fresque du climat, la communauté de la fresque de la biodiversité, voilà. Et toutes ces petites communautés, en fait, c'est que des animateurs, en fait, et des formateurs aussi, pour former les animateurs. Et ces communautés, elles s'autogèrent, hein, elles fonctionnent, elles ont leur site, elles ont leur com, elles ont tout ça. Et après, la question, si j'ai bien compris, comment un nouvel atelier émerge, en fait? C'est des gens comme vous et moi ou quoi, qui ont envie de se dire, ce serait sympa de faire plus sur ce sujet-là. Et puis, c'est des gens qui font. Et puis après, ça sort et puis ça met du temps. La fresque du climat, maintenant, on est même international, on est énorme. Mais il y a des fresques qui débutent et qui sont encore à juste même pas une cinquantaine d'animateurs dans toute la France, quoi.
Donc c'est vous qui vraiment bachotez le sujet dans votre temps libre et il n'y a pas une histoire de formation on ne peut pas être formé à créer des ateliers, que ce soit l'écologie ou n'importe quel sujet, mais c'est vraiment vous.
Oui.
Ok.
Oui.
Est-ce que vous actualisez, c'est une autre question, c'est en fonction de, donc on a vu de l'initiative des bénévoles, est-ce qu'il y a des recherches d'ateliers particuliers en disant, par exemple je pense à l'actualité, en disant ce sujet-là est vachement débattu sur les énergies en ce moment, est-ce qu'on identifie un besoin, on va chercher les fresques qui existent au sein de l'association en disant « Ah, mais là, il nous faudrait un intervenant, une intervenante sur une fresque ou sur un atelier autour de ces questions-là ». Est-ce que c'est une démarche que vous faites ou c'est plutôt vous laisser venir où vous voyez ce qui existait et vous improvisez avec ce qui existe? Ou est-ce qu'il y a des volontés à propos de sujets en particulier, des besoins? Est-ce que ça répond à des besoins ou c'est plus on constate ce qui existe et on prend ce qui existe?
Les sujets sont vraiment divers et variés. Et effectivement, là, je crois qu'à peu près tous les sujets sont couverts maintenant. je dis ça, mais peut-être qu'il y en a encore d'autres. Mais il y a la fresque de la mobilité, la fresque des déchets, il y en a vraiment beaucoup.
Un lien avec l'actualité, peut-être?
Alors, un lien, par exemple, c'est vrai que moi, une je me dis qu'en ce moment, peut-être que les gens seraient motivés, c'est la fresque de l'eau, en fait. La fresque de l'eau, parce que l'eau, c'est vraiment un gros problème. Et il y a encore le climat, on s'en rend compte, puis on nous en parle depuis un petit moment, etc. Autant l'eau, ça, c'est assez nouveau et puis on s'en rend pas forcément encore compte parce que l'eau, elle coule toujours au robinet, autant qu'avant. Hein. Sauf que, voilà. Et donc je pense que, par exemple, la fresque de l'eau, c'est un sujet en ce moment qui est pas mal. Et je dirais aussi la biodiversité. Parce que là aussi, il y a une prise de conscience, je pense, de plus en plus qu'on fait du mal à la biodiversité, qu'elle est hyper importante pour nous tous, en fait. Et du coup voilà, et alors par contre en jeu commun, ça m'a fait penser un peu votre question, en jeu commun donc nous on recense tous les ateliers possibles mais on est ouvert à tous les ateliers, hein. S'il y en a un qui veut s'intégrer on le prend, on fait pas de tri, hein. C'est,
oui, donc c'est si, vraiment... si y a une personne qui a une idée d'atelier et qui a un sujet et qui a travaillé le truc, il vient vous voir et boum.
Alors après, c'est pas nous qui allons décider au niveau national pour l'impression de cartes, pour l'autorisation et tout ça. Nous on n'est vraiment pas du tout là-dedans. Nous, on prend des choses qui sont déjà un peu avancées, des projets qui sont déjà avancés, quoi.
Ok. Et donc, ce sujet d'écologie et de transition écologique... ça englobe quand même beaucoup de sujets dans la société, que ce soit économique, l'aspect du numérique, Comment abordez-vous tout cet aspect global dans ces transitions?
Alors, comment moi...
En tant que militante.
Ah ouais, en tant que moi personnellement. Je pourrais en dire beaucoup.
On est là pour ça.
Alors, le truc, c'est que ce qu'il faut... Enfin, là, ce que vous allez peut-être entendre beaucoup, c'est le fait que ce soit systémique, en fait. C'est-à-dire que tout est lié, en fait. Si on agit quelque part, il faut aussi penser à agir de l'autre, parce que c'est un problème hyper complexe. C'est pas juste des petits problèmes à résoudre comme ça, c'est des problèmes hyper complexes. Et du coup, comment moi j'appréhende, c'est ça ? Moi, je suis positive. Ça, je pense que c'est important. Après, moi, si je me suis un peu engagée, enfin, si je me suis engagée, c'est parce que j'ai toujours été un peu sensible à l'écologie, sans pour autant être complètement... Voilà. Et puis, un jour, il y a eu un déclic qui a fait que je me suis dit, mais c'est pas possible, là, faut qu'il se passe des choses. Et moi, j'ai la motivation à... La motivation, plus j'aime bien partager avec les gens. Donc moi, je me suis plus orientée vers la sensibilisation. Mais il y a des gens qui sont engagés plus dans des associations où ils vont plus faire des choses comme la désobéissance civile ou des choses comme ça. Donc chacun a son engagement qui peut être différent suivant sa personnalité et suivant comment il se sent bien dans... Parce qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Si on veut s'engager, il faut juste, je pense, déjà se recentrer un peu sur soi, se dire, mais qu'est-ce qui me parle à moi ? Qu'est-ce que là où je vais bien me sentir ? Parce que c'est des sujets quand même qui sont assez difficiles, en fait, et difficiles à vivre. Et même en tant que militante, ce qui est difficile aussi, c'est peut-être que ça va être de plus en plus facile parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés. Mais ce qui est aussi difficile, c'est de trouver le bon discours, en fait, pour aborder les gens et pour pas leur faire peur. Et parce que... Là, je lisais un résultat d'une enquête de l'IFOP qui disait qu'il y avait quand même 8 Français sur 10 qui, dans leurs 3 premières préoccupations, le climat est rentré dans ces 3 premières préoccupations, ce qui n'était pas le cas avant. Et 8 Français sur 10, et moi, je trouve ça énorme. Ça m'a fait peur, en fait. Mais je pense que le problème... c'est que ces gens-là, c'est leur préoccupation. C'est normal, il faut. De toute façon, il va falloir que ça devienne une préoccupation parce que sinon, on ne va jamais rien faire. Mais d'un autre côté, je pense que les médias ne relayent pas forcément l'information comme il le faudrait parce que c'est des informations qui sont anxiogènes. Alors que quand on se penche un peu plus sur les sujets, il y a d'ailleurs des ateliers qui sont faits pour ça. Je vais les citer, comme la fresque des nouveaux récits, « Inventons nos vies bas carbone », 2 tonnes, qui vont être plus des choses qui vont être concrètes et dans l'action. Et par exemple, la fresque des récits, typiquement, c'est une fresque où on va s'imaginer des futurs. Des futurs avec les contraintes qu'on va avoir. Et se dire que on réfléchit plus trop avec tout le numérique, tout ça. On est un peu tous focalisés sur les mêmes idées. Mais quelque part, si on change de façon de penser, si on change, on peut trouver plein d'idées. Et quand on est tous ensemble, on peut construire une nouvelle façon de vivre, mais tous ensemble, en fait. Et en changeant un petit peu et pas se laisser emporter par les idées reçues qu'on a. Et c'est chouette. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me donne espoir, parce que je me suis jamais trop bien sentie dans cette société hyper consommatrice, tout ça. Ça n'a jamais été mon truc, en fait. Et là, je suis contente, en fait, malgré un avenir qui semble pas top. Je me dis que c'est l'occasion de changer complètement notre façon de d'agir entre nous, d'être entre nous, notre façon d'être entre nous. Et moi, je trouve ça chouette. C'est une opportunité. Alors, est-ce que l'opportunité, elle va aller jusqu'au bout et qu'on va vraiment réussir à changer, à changer notre mode de vie? Parce que là, on parle des problèmes plutôt climat, biodiversité, etc. Mais il y a aussi énormément de problèmes sociétaux où les écarts entre riches et pauvres se font de plus en plus. Et ça, c'est aussi un énorme problème. Et c'est ce que je vous disais, tout ça, c'est systémique, en fait. Tout se rejoint. Et c'est pour ça aussi que ce qui est bien, c'est que si on se construit une nouvelle société tous ensemble, vu que c'est systémique, ça touche plein de domaines, eh ben, y a du boulot pour tout le monde, il y a des choses qui sont à faire pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir s'épanouir dans quelque chose qui aura du sens pour lui. Voilà. Je vais peut-être arrêter
Merci
de parler.
Ah, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut s'accorder une petite pause musicale.
The butterfly you've given me inside of me when you're alone, stay alone. And you fly through my head, and when you're gone, I'll be finding the time so long. I'll be searching a way to get along. I'll be flying until I fly away. The beautiful butterfly always fly, lay beside me. We can be pretty butterfly, you and me. I'll be searching to get along. I'll be flying until I fly away.
Laura Prince sur Radio Campus Grenoble. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Magali, bénévole à Enjeux Communs, pour nous parler jeux et sensibilisation à l'écologie à l'occasion de Sensibiliser édition 2023, qui prendra place du 11 au 19 novembre partout sur le territoire isérois. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet événement ?
Eh bien oui, donc ça va se passer, bah, c'est même plus qu'une semaine en fait, parce que c'est du 11 au 19, donc ça fait même un peu plus d'une semaine. C'est parti d'une expérience qu'on a déjà, enfin d'un événement qu'on a déjà fait au mois de mars, où on avait ciblé sur le Grésivaudan, où on s'était dit, bah tiens, pendant une semaine, on va proposer tous les soirs de la semaine des ateliers divers dans différentes communes du Grésivaudan, pour que les gens n'aient pas trop de transport à faire, vous voyez bien le problème. et puis des ateliers multiples. Et suite au succès de... parce que ça avait quand même bien marché, on avait eu plus de 25 ateliers dans la semaine, et les retours étaient plutôt satisfaisants, les gens avaient envie que l'événement se reproduise, donc du coup on s'est dit, bon bah on va reproduire l'événement, donc on s'est plutôt fixé donc à l'automne, et puis donc on s'est relancé dans, voilà, contacter des lieux, parce qu'il faut trouver les lieux, contacter les animateurs, parce qu'après il faut contacter les animateurs, tout ça, donc c'est... Et il y en a un des membres, hein, Manu, pour ne pas le citer, je vais faire la délation, s'est dit, bah, et pourquoi est-ce qu'on ciblerait pas les 100 ateliers quoi, dans tout l'Isère ? Donc, bon, 100 ateliers, ça commence à faire, mais n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, on est à 70 ateliers quand même de programmer dans tout l'Isère. Alors comme vous le disiez en introduction tout à l'heure, ça va du Trièves, mais vraiment, vraiment ça balaye tout le... Tout l'Isère, et ce qui est chouette, je pense, de notre point de vue, hein, c'est que vraiment il y a différents ateliers qui sont vraiment proposés là où les gens sont. En fait, enfin voilà, il n'y a pas besoin de. Les ateliers sont gratuits, donc voilà. Et bon, les ateliers sont pour la plupart programmés de 19h à 22h. Parce que c'est 3 heures, donc ce qui est bien, c'est d'arriver à l'heure aussi pour que ça dérape pas trop. Parce que après, c'est vrai que des fois, c'est toujours un peu frustrant quand on est limité dans le temps et qu'on n'a pas le temps de finir, surtout quand c'est sur la partie action, où après, du coup, les gens se disent, mais attends, on repart, mais on ne sait pas quoi faire. Là. Donc c'est, voilà, donc, on essaye toujours de tenir les 3 heures pour respecter aussi chacun. Et voilà. Après, ces 70 ateliers, ben, c'est facile. Il suffit d'aller sur le site d'Enjeux communs. Donc là, on a une page exprès pour sensibiliser, où là, vous avez deux tableaux et une carte. Alors, le premier tableau, c'est les ateliers sont répertoriés par atelier. Donc, si vous cherchez un atelier précis, ben, vous trouvez les dates et les lieux. Le deuxième tableau, ça va être sur fixé par date. Donc, si vous dites, ben, ce soir, là, je vais me faire une petite fresque quelque part. Et laquelle ? Ben, voilà. Et puis, le troisième, c'est la carte. Alors là, on est assez fiers parce que c'est nous qui faisons le site. Et c'est trop bien, en fait. C'est trop bien fait. Il faut aller voir sur le site Enjeux communs. Et voilà. Et vous verrez la diversité des ateliers qui sont proposés.
Pour organiser ce genre d'événement, est-ce que vous avez besoin de financement, de partenariat avec des associations ? Comment ça se passe ?
Alors, financement, ben non, parce que du coup, nous, on demande... Alors, par exemple, quand on va contacter des mairies ou des tiers-lieux ou quoi, pour nous prêter des salles, il s'agit bien de prêts, hein, parce que nous n'avons pas de... Ça arrive que des fois, il y en a qui nous demandent 50 euros ou 30 euros, et là, on dit, ben non, en fait, parce que, enfin, on n'a vraiment pas d'argent, du coup. Bah après, si ça va être 10 euros, on va se débrouiller. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a certains ateliers où des fois, on demande aux gens, enfin, on propose aux gens d'une participation libre. Donc, s'ils ont envie de mettre 1 euro, 2 euros, 5 euros, voilà. Après, ce sera de toute façon toujours de l'argent qui sera qu'on utilisera dans l'association pour des choses qui ont du sens. Hein, évidemment, on ne va pas se faire un apéro, nous, avec tout ça. Et voilà.
Donc, il n'y a pas de communauté de communes ou de communes qui soutient, qui vous soutient. Enfin, en prêtant les lieux, oui. Leur lieu aussi, mais...
Si, alors c'est vrai que le deal aussi un petit peu avec eux, c'est qu'ils nous aident à faire de la com.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que bah, voilà, si c'est à une petite ville où ils ont des panneaux lumineux où ils peuvent passer l'info, ben on leur demande de passer l'info. Après, on leur fournit tout le support de communication. On leur fournit les affiches, on leur fournit les logos, les QR codes, voilà, tout pour que ce soit facile pour eux de communiquer facilement, quoi.
Oui, la question c'était est-ce que vous êtes en lien avec les autres acteurs du territoire, donc communautés de communes, autres associations peut-être qui font ce genre de démarche en termes de sensibilisation un peu comme vous. Est-ce que vous avez des liens avec d'autres acteurs?
Alors oui, on va avoir des liens avec des lieux justement. Alors il y a des bars sur Grenoble, parce que finalement il y a beaucoup de lieux qui se développent de plus en plus et qui proposent différentes choses. Et ça va être des ateliers comme nous, mais ça va être aussi d'autres choses. Hein. Il y a plein de choses à faire, il n'y a pas que les ateliers de sensibilisation. Et donc ces lieux-là, on est copains avec eux, j'ai envie de dire. Et c'est super parce qu'on construit des choses ensemble. Voilà. Après, les communautés de communes, je dirais non. Les mairies, hein, si, les mairies, elles sont vraiment ouvertes. C'est rare que, enfin moi en tout cas dans ma recherche de lieux, c'est rare qu'on nous jette en fait, parce qu'ils pensent aussi également que c'est important.
Autre question par rapport au sensibiliser, vous avez donné les horaires oui. De 19h à 22h.
Oui.
Donc il y a quand même des ateliers organisés pour les enfants ou pas?
Alors, au début, on s'était dit non, parce que le soir, c'est pas possible. Après, on a Saint-Martin-du-Riage qui vont proposer quand même le dimanche des ateliers plus famille. Donc, oui, il y aura ça pendant Sensibiliser. Faut aller voir sur. C'est le dimanche, c'est le deuxième dimanche, donc le 19, c'est ça. Où là, il y a possibilité d'aller en famille. Et Saint-Martin-du-Riage, eux, par exemple, ils ont une petite. Petite association, on va dire, qui s'appelle les Climacteurs, et qui sont hyper actifs. Et donc, pendant la semaine de Sensibiliser, ils proposent sur trois soirs, quatre ateliers différents, plus le dimanche.
Et pour rappeler, le public qui est visé quand vous parlez de famille, c'est des gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas une connaissance préalable des sujets abordés, forcément très, très, très fine. C'est dans un but de vulgarisation et d'inclusivité.
Oui, voilà, c'est ça, c'est pour que les gens comprennent la problématique au travers le sujet qui est abordé par l'atelier. Et donc, comprendre, c'est important. C'est important de comprendre, parce que si on vous dit que, par exemple, qu'il faut énormément diminuer sa consommation d'eau, il faut comprendre pourquoi, en fait, parce que sinon, on n'y arrivera pas à passer à l'action. Parce que si on... Voilà, je pense que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans le cerveau. Hein, on se met à l'action quand ça a du sens et qu'on comprend. Donc ces ateliers-là sont vraiment faits pour. Et c'est pour ça aussi que c'est important de comme vous dites, hein, de sensibiliser aussi les enfants, je pense. Voilà. La fresque du climat, par exemple, à partir de 15 ans, la fresque adulte, elle passe. Hein, voilà.
37% des Français sont climato-sceptiques, selon l'Observatoire international climat et opinion publique. En quoi cette sensibilisation peut jouer vraiment un rôle pour y faire face?
37% de climato-sceptiques. Après, ça dépend ce qu'on met derrière le terme de climato-sceptique, effectivement. Alors, si le terme de climato-sceptique, moi, ça va plus être la personne qui va être plus dans l'agression. Parce qu'elle se sent en danger, en fait, quelque part. Les climato-sceptiques, c'est la peur, hein, en fait, qui fait que... Il y a un truc qui s'appelle la courbe du deuil, et la courbe du deuil, en fait, ça commence par le déni. Et le deuil, quand on fait le deuil de quelqu'un, mais ça peut être le deuil de plein de choses, hein, en fait. Et le deuil de notre société, par exemple, ou le deuil de... Enfin, voilà. Et donc, cette courbe, elle commence toujours par la phase de déni. Donc, la phase de déni, on peut dire que c'est les climato-sceptiques qui sont dans cette phase, en fait. Et cette courbe du deuil, après le déni, on va avoir d'autres émotions, hein, qui vont passer jusqu'au plus bas, pour remonter après, parce que cette courbe, elle descend, puis après, elle remonte. Et les climato-sceptiques, c'est le déclic qui sera de même. En fait, on ne peut pas les changer. On peut essayer de les sensibiliser, mais si ça ne percute pas, ça ne percute pas, quoi.
Vous en rencontrez quand même dans les ateliers ou...
Oui.
Et comment est-ce que vous arrivez à... Les sensibiliser, à les faire réfléchir à...
Alors, le but premier, quand on a un climato-sceptique dans un atelier, c'est qu'il ne diffuse pas. Qu'il ne diffuse pas dans le groupe, en fait. Parce que souvent, c'est des gens qui vont perturber l'atelier et qui, du coup, va planter l'atelier, en fait. Et après, dans notre formation, en tout cas, Fresque du Climat, on est sensibilisé aussi à ça. Comment répondre à des gens qui sont climato-sceptiques? En général, on laisse les gens parler, voilà, sauf si vraiment ça devient perturbant pour le groupe, où là, on va peut-être prendre un peu la personne à part ou essayer de, enfin voilà, de faire que ça se passe le mieux possible. Mais c'est des situations qui sont pas faciles, c'est vrai.
Une autre question, est-ce que vous considérez l'association Enjeux en commun comme militante?
Bah oui, je dirais, c'est une certaine façon d'être de militer, en fait. C'est pas parce qu'on fait des parce que souvent les gens se disent militants, c'est la désobéissance civique, etc. Sauf que en fait, il y a pas que ça. Puis il y a les avis sont aussi partagés sur le sujet. Hein. Il y a des gens qui disent non-violence. Alors, faut savoir que les désobéissances civiles, enfin, c'est pas de la violence non plus, quoi.
Là,
pourrait parler sur plein de sujets. Mais j'ai oublié le début de la question.
Non, c'était ça, ouais. Simplement militante. Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez ou pas? Oui. Déjà, mais vous y avez peut-être déjà un peu répondu et ça va peut-être de pair avec. Est-ce que vous avez le sentiment de donner des clés d'action? Ça va peut-être un peu dans ce sens-là.
Oui, alors c'est vrai que quand on fait une fresque du climat ou autre, un atelier, ce qu'on aime bien, c'est qu'à la fin, des fois, il y a des gens qui disent ah ouais, non, mais moi, je veux devenir animateur. Voilà. Et là, on se dit, là, il y a eu un truc qui s'est passé et c'est chouette parce que du coup, il va nous rejoindre. Donc, on va augmenter la communauté en plus. Et c'est vrai que ça, par exemple, en fin d'atelier, ça, c'est une satisfaction où on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Et des fois, on revoit des gens qu'on a déjà vus dans des ateliers, et ils viennent pour se sensibiliser sur d'autres sujets. Et ça, c'est chouette aussi.
Est-ce qu'on peut revenir à... sujet qui m'a touché quand vous parliez juste avant la pause musicale concernant l'information anxiogène. Les médias, c'est sûr qu'ils transmettent de l'information qui devient anxiogène et ça peut nous rendre pessimistes sur le sujet, même plein d'autres sujets dans notre société. Mais au niveau de l'écologie, comment... on pourrait faire pour transmettre de l'information plus positive?
Alors, pour rester positif, de l'information positive, il y en a. Elle n'est pas majoritaire, mais on arrive à en trouver. Hein. Il y a des gens qui se bougent depuis des années et des années, qui ont fait des films. Cyril Dion, par exemple, qui a fait énormément de choses. Donc, il y a des choses positives qui sont visibles sur Internet, même... alors moi, je ne regarde pas du tout la télé, donc je ne peux pas du tout vous dire au niveau, au niveau de télé, mais sur Internet ou des conférences qu'on peut voir aussi, il faut chercher vers où vous orientez votre recherche de tout ça, quoi.
Et est-ce que vous avez des médias conseillés, des sources?
Waouh, il y en a plein. Alors après, ça dépend au niveau lecture. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des choses qui commencent à s'écrire aussi sur l'éco-anxiété. Ça, c'est un autre sujet. Alors pour juste petite parenthèse, l'éco-anxiété, pour moi, c'est pas une maladie. C'est juste une prise de conscience qui est essentielle. Et quand on parle, quand on me dit, ça vient pas de moi. Ça vient de Pablo Servigne, qui a des bouquins aussi très intéressants. Je l'ai entendu dans une conférence avec Aurélien Barraud.
Oui.
Voilà, il est de Grenoble quand même. Et il disait que quand les gens vont lui dire, vous lui parlez d'éco-anxiété, vous êtes éco-anxieux, etc. Lui, il va plutôt répondre, oui, peut-être éco-anxiété, mais l'éco-dissociation aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est éco-dissocié, c'est quelqu'un qui ne va pas être en relation avec la nature, qui ne va pas s'en... Voilà. Voilà.
Et puis Aurélien Barreau, il me semble que c'est lui, il disait que c'est rassurant d'être éco-anxieux par rapport à la situation.
Ouais. Oui, mais voilà, après, on en revient toujours au même, c'est dans les médias, l'éco-anxiété, tout ça. Mais en fait, quand on va chercher un peu, on va effectivement trouver des gens ou des choses qui sont écrites, que l'éco-anxiété, c'est pas une maladie. Après, il faut l'accompagner, évidemment. Mais il ne faut pas en avoir peur. Enfin, c'est pas une maladie. Et voilà, une fois de plus, c'est un peu les médias aussi qui relayent ça. Dans les médias, donc au niveau lecture, au niveau cinématographique, pour les gens qui ont un peu plus. Moi, je crois qu'il y a aussi des reportages très intéressants sur Arte. Il y a des choses positives. Je pense qu'il n'y en a pas assez, mais ça va venir. Ça va venir si comme vous, vous faites des choses comme ça, même si c'est petite échelle. C'est des petites choses comme ça qui vont faire que, on va y arriver.
Vous citiez un sondage de l'IFOP qui plaçait le climat
dans les préoccupations.
Dans les préoccupations, voilà, majeures des Français. Est-ce que vous le remarquez, vous, sur le terrain, plus de gens qui viennent à des ateliers, plus de sollicitations de part d'entreprises ou d'organisations?
Alors, par exemple, au niveau des entreprises, oui, de plus en plus, parce que... les entreprises se doivent de sensibiliser aussi leurs employés, etc., pour être plus green, etc. Donc ça, c'est des choses qui se font. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que dans les animateurs des différents ateliers, il y en a qui sont professionnels et qui peuvent intervenir dans les entreprises. Et c'est vrai que ces personnes sont de plus en plus nombreuses parce qu'il y a des besoins d'entreprises.
Dans les ateliers en général en termes de participation, je dirais, citoyenne.
Oui. Alors, oui, il y en a de plus en plus. Et sinon, dans l'entourage, il faudra qu'il y en ait de plus en plus pour que les gens comprennent ce qui se passe. Mais dans l'entourage, de toute façon, on le ressent. Enfin, moi, je le vois. Hein, je pense qu'on le voit tous. C'est que cet été a été très chaud. On a eu des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc les gens, je crois que ils peuvent plus se cacher, quoi. Ils peuvent plus fermer les yeux parce que c'est là, quoi. Et c'est là, mais il faut garder espoir et qu'il faut rester positif, justement. C'est là où c'est important, parce que sinon on va tous. Il faut pas que cette préoccupation soit anxiogène, en fait. C'est une préoccupation, certes, mais il ne faut pas que ce soit anxiogène, mais plutôt partir dans l'action et d'agir.
Et dernière question en lien avec le politique, est-ce que vos actions ont aussi pour but d'interpeller les pouvoirs publics?
Alors, nos actions, nous, enjeu commun...
Alors, le mouvement des fresques du climat.
Alors oui, on a, dans toutes les fresques, surtout la fresque du climat, on a été très moteur, pas en jeu commun, je vous parle fresque du climat, très moteur pour aller sensibiliser énormément les communautés de communes et les mairies, pour cibler un peu plus le côté politique, en fait. Parce que le côté politique est quand même hyper important, parce que si la politique ne va pas dans le bon sens, même si nous, petites gens, on essaye de faire des choses, on est freiné, voire stoppé. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aussi depuis le début de l'année 2023. Ça a commencé avant, mais là, ça devient vraiment de plus en plus... présent, parce qu'il y a de plus en plus de manifestations. Là, je pense par exemple à la 69, qui est un petit bout d'autoroute qui a fait beaucoup parler, qui a de sens pour pas grand monde, en fait. Et quand on cherche un peu plus loin, c'est des décisions politiques qui sont maîtrisées par peu de personnes, en fait. Et c'est très dommage, parce que cette façon de répression, et surtout, je dirais, après, dans les médias, comment c'est transmis dans les médias, c'est pour faire peur aux gens, c'est pour faire peur aussi aux gens qui ont envie de manifester, de façon pacifiste. Et comme certaines manifestations ne se passent pas bien, se finissent mal, c'est juste pour, je pense, pour nous affaiblir et nous faire peur, pour pas qu'on agisse, en fait, ce qui est très dommage.
Oui, dans le cas de la 69, les violences ont été commises, mais très tard dans les mobilisations. Il y a eu quand même beaucoup d'actions de désobéissance civile qui se sont passées vraiment dans un calme et une volonté d'interpeller très pacifique. Les violences, elles sont intervenues beaucoup plus tard et peut-être en réaction aussi à d'autres choses.
Comment peut-on adhérer à l'association? Faut-il avoir déjà une grande connaissance du sujet?
Non. Quel que soit l'atelier, il n'y a pas besoin d'avoir une grande connaissance. On n'est pas un animateur de la fresque du climat comme moi et tant d'autres. On n'est absolument pas du tout expert. Hein. Il y a les experts du GIEC qui ont fait des choses, des rapports, et tous les ateliers se rapportent justement à ces rapports du GIEC et à d'autres rapports de d'autres organismes. Par exemple, pour l'eau, ça ne va pas être forcément le GIEC, ça va être des organismes le plus spécialisés. Donc ça, c'est vraiment... Mais l'animateur n'est pas expert. Il est juste là pour expliquer les choses simples, en fait.
Okay. Merci beaucoup, Magali.
Merci.
D'avoir accepté notre invitation. Pour rappel... Sensibiliser édition 2023, ça sera du 11 au 19 novembre. Allez regarder sur le site d'Enjeux communs et de Sensibiliser.
D'Enjeux
communs, ouais. Pour trouver les ateliers près de chez vous. Je suis sûr que vous trouverez chaussures à votre pied. C'était un plaisir d'avoir co-animé cette émission avec Marik.
Merci.
Alors avant de se quitter, le cinéma La Nef organise une avant-première demain à 19h. Le film s'appelle L'Arche de Noé et parle des jeunes LGBT+ en situation de rupture familiale. L'entrée se fait à prix libre. Il suffit de s'inscrire sur le site largedenoé-film.com. Les fonds récoltés iront à la fondation Le Refuge. Ensuite, je vous laisse avec les sons d'Alice, notre futur service civique, au cœur de Palerme. L'apérophonie, c'est fini pour aujourd'hui, mais les programmes de Radio Campus Grenoble, eux, toujours continue. Restez à l'écoute du 90.8 FM.
Ce soir, on est à Castelbuono et c'est la fête des champignons. Castelbuono, dans le parc des Madoniers, à côté de Palerme, en Sicile.
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.